وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يوم الدين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le très haut, qui nous a permis dans ces 10 derniers jours, donc dans la première décade de Dhul-Hijjah, de vivre deux moments importants du calendrier musulman. Allah azza wa jal nous a donné la possibilité dans ces 10 jours de vivre donc deux moments extrêmement importants dans la vie du musulman, à même titre, au même titre que le mois de Ramadan a une importance. Nous avons par la grâce d'Allah vécu la première décade, les 10 jours de Dhul-Hijjah, qui ont une valeur spéciale dans le calendrier musulman. Décade pendant laquelle les actions sont les plus appréciées, sont les plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné également la possibilité donc de vivre le Udhiya, le jour du sacrifice, en commémoration au geste de Ibrahim alayhi salam, repris par le prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ces actions, mes chers frères, font partie des sha'a'ir al-islam, font partie des symboles, des moments forts et des moments importants de notre belle religion. Et tous les ans, avant l'approche de ces moments, tout comme nous approchons le Ramadan, nous expliquons quelles sont les vertus, quelles sont les importances liées à ces événements. Et alhamdoulilah, les gens écoutent et les gens mettent en pratique, et nous donnons sans aucun doute une attention particulière à ces moments. Mais nous constatons que les saisons s'enchaînent, les Ramadan s'enchaînent, les Dhul-Hijjah s'enchaînent, les Qurbani s'enchaînent. Maintenant, à nous de voir, certainement nous les vivons ces moments importants. Chaque musulman vit ces moments importants, mais la question est, est-ce que nous les abordons de la bonne façon? Est-ce que nous abordons ces moments importants de la bonne façon? Est-ce que lorsqu'un musulman il va entamer les 10 jours de Dhul-Hijjah, est-ce que lorsqu'un musulman va entamer, on va dire le Ramadan également, lorsqu'il va entamer le Qurbani, est-ce qu'il comprend vraiment quel est l'objectif qu'il y a à travers l'acte d'adoration? Quel est le maqsad? Est-ce que l'acte d'adoration est une fin en soi, ou à travers l'acte d'adoration, il y a un but recherché par Allah subhanahu wa ta'ala? On peut dire qu'il y a deux aspects pour chaque acte d'adoration. Il y a l'aspect extérieur, on dirait pas le zahir ou le batin, parce que ça c'est une autre notion qui a été utilisée à tort. On pourrait dire que dans les actes d'adoration, il y a tout ce qui s'appelle les masa'il, les règles d'application. Comment faire le qurbani, comment choisir la bête, comment le sacrifier, quelle doit être la position façon qibla, comment distribuer. Ce sont les règles qui régissent l'accomplissement de l'acte d'adoration. Et puis il y a le maqsad, l'objectif, on pourrait dire l'essence, le rouh, la philosophie qu'il y a à travers l'acte d'adoration. Et il faut bien comprendre que le musulman intelligent, le musulman qui est éclairé, c'est celui qui va aller au-delà du symbolisme de l'action. Il va aller au-delà du rituel et il va rechercher l'âme, le rouh qu'il y a dans chaque action. Donnons un exemple très simple pour qu'on comprenne la différence qu'il y a entre accomplir une action, certes comme il se doit, mais juste de façon extérieure, et accomplir l'action en nous comprenant et en mettant vraiment en pratique dans notre vie l'objectif qu'il y a dans l'action. On va rester dans le qurbani, dans l'action qu'on vient d'accomplir il y a quelques jours. Alors notre conception du qurbani, le schéma qu'on s'est fait nous intérieurement du qurbani, c'est quoi? C'est le choix de la bête en fonction des masa'il, le fait de l'égorger en fonction des masa'il et des règles, et puis distribuer la viande comme les masa'il nous demandent également, avec une partie pour les pauvres, une partie pour la famille et une partie qu'on peut garder pour soi. Maintenant, vous allez dire que oui, mais celui qui l'a fait, il aura accompli son qurbani. Certes, il aura accompli son qurbani. Pour Allah Azza wa Jal, il l'a fait, l'action a été faite. Maintenant, la question est de savoir qu'au-delà de l'aspect extérieur du rituel, est-ce qu'il n'était pas de mon devoir de musulman de creuser un peu plus et d'aller rechercher qu'est-ce qu'Allah a voulu à travers ce ibadah? Pourquoi est-ce qu'Allah Ta'ala a demandé à Ibrahim alayhi salam d'accomplir ce sacrifice?
Pourquoi Allah Ta'ala a demandé ensuite au prophète sallallahu alayhi wa sallam de reprendre, de perpétuer la même action et de demander à chaque musulman de sa umma jusqu'au qiyamah de perpétuer la même action? Est-ce que le seul but est de sacrifier la vie d'un animal ou il y a quelque chose de plus subtil, de plus profond à travers cet acte d'adoration? Vous avez tous compris que dans chaque acte d'adoration, il y a un ruh, il y a une âme, il y a quelque chose, il y a une leçon à retirer. Et ça, c'est pas que pour le qurbani, c'est pour chaque ibadah que les musulmans accomplissent. Il y a une notion importante, c'est at-tadhallul wal khudu', les deux symboles. Les deux qualités qui régissent chaque acte d'adoration, c'est rechercher la soumission. Rechercher la soumission envers Allah Azza wa Jal. Quand j'accomplis un ibadah, la première chose que je fais, c'est quoi? C'est que je reconnais Allah comme mon créateur. Je reconnais Allah comme mon khaliq, mon raziq, celui qui m'a donné la vie, celui qui me donne la mort, et c'est vers lui que je retourne. Et si je fais tel acte d'adoration, telle action, c'est parce qu'il veut que j'accomplisse ça. Et qu'en accomplissant cette action, Allah est satisfait de moi, je me rapproche de lui, je me rapproche du paradis, et je m'éloigne de l'enfer. Et si je ne le fais pas, je m'éloigne d'Allah, je m'éloigne du paradis, je m'approche d'eux, et je m'approche de l'enfer. Ça c'est at-tazallul wal khudu', la soumission, l'humilité, la reconnaissance de la du caractère divin d'Allah Azza wa Jal, et en même temps la reconnaissance que nous sommes des serviteurs d'Allah, que je suis un esclave d'Allah. Comme Allah dit au Coran, « Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. » Ça ne se limite pas à 5 rakat, à 5 namaz par jour. Ça ne se limite pas à un animal sacrifié par an ou à 30 jours de jeûne par an. Non. C'est ma vie, ma mort, mon existence, tout, moi, j'appartiens à Allah. La soumission à Allah, c'est quoi? C'est que je comprends que mon corps ne m'appartient pas. Que mon temps ne m'appartient pas. Que les bienfaits que j'ai, c'est pas moi qui a gagné. C'est pas mon papa qui m'a donné et que j'ai eu en héritage. C'est pas grâce à mes études, à mes diplômes, non. Tout ça, ce sont des dépôts, des amanas qu'Allah m'a accordés. Et qu'un jour, je retourne auprès d'Allah. Et je vais rendre compte devant le tribunal d'Allah quant à la manière que j'ai passé ma vie. Comment j'ai dépensé mes biens, mon temps et les bienfaits qu'Allah m'a donné. C'est-à-dire que la vie du musulman, c'est un muraqaba. La vie du musulman, c'est une autocritique, une analyse permanente. C'est pour ça que les ulama rahimahumullah disent qu'un mu'min ne doit jamais vivre dans l'insouciance. Lorsqu'on se sent un peu insouciant, on doit essayer de se ressaisir. Connaissez l'histoire de Hanbala radiallahu anhu. Il est avec le prophète sallam de la masjid, avec le plus haut degré de iman. Quand il retourne auprès de sa famille, il sent une baisse un peu de iman. Et là, il se fait du souci pour son iman. C'est dit au prophète d'Allah, près de toi, quand tu parles, c'est comme si que je vois le paradis et l'enfer. Mais là, je suis retourné auprès de mon épouse et mes enfants, c'est comme si que je me laisse aller. Et puis le prophète m'a expliqué qu'aucun être humain ne peut atteindre la perfection. Mais ce qu'on doit retenir, c'est cette réaction de Hanbala radiallahu anhu qui est magnifique. Et cette réaction, je dois me poser la question, est-ce qu'il m'est arrivé à moi, musulman, une fois, je ne dirais pas dans la journée, mais dans ma vie, Allah musta'an, de me demander, de me poser des questions sur l'état de mon iman. Est-ce qu'au moment où je parle, est-ce qu'à ce moment précis, est-ce qu'Allah est satisfait de moi? Est-ce qu'au moment précis, si l'ange de la mort vient et reprend mon âme? Est-ce que lorsque je retourne auprès de mon Créateur, est-ce qu'il est content de moi ou il n'est pas content de moi? Ça, c'est vraiment le ruh du ibad. Que le musulman, il comprend qu'il appartient à Allah. Et qu'est-ce que cela va m'apporter de réaliser que j'appartiens à Allah? Je vais comprendre qu'il n'y a pas de limite de l'ibad. C'est pas comme à la page de Zahimouaté, on l'a coupé et on tourne la page. On tourne jamais la page. On tourne jamais la page. Je dois être toujours en état de vigilance. Toujours, c'est comme si que mon cœur, il est toujours en prosternation devant le trône d'Allah et mes pieds ils sont sur terre. Ça, c'est une qualité qui doit être intrinsèque aux musulmans. Toujours avoir là la pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala de son cœur. Et à travers, on revient avec l'exemple qu'on a donné, au-delà de l'application des masa'il, des règles de jurisprudence, quant à la manière d'égorger l'animal, de distribuer sa vanne, etc., comme on a dit tout à l'heure, je dois, moi, un musulman intelligent, je dois devenir un musulman éclairé, comprendre qu'est-ce qu'Allah il veut à travers ce ibad. Allah, qu'est-ce qu'il veut? Quand Allah ta'ala demande à Ibrahim alayhi salam de sacrifier son fils, Ibrahim alayhi salam a eu cet enfant à un âge très avancé. Vous savez qu'un papa aime son enfant. Quelles que soient les croyances, quelles que soient les tendances, un papa, une maman, c'est normal, ça c'est naturel, c'est dans l'innéité. On est attaché à nos enfants. D'autant plus qu'Ibrahim alayhi salam a eu cet enfant à un âge très avancé. Après avoir fait beaucoup de doua, Allah lui a accordé cet enfant. Imaginez une personne qui est âgée. Une personne dont la barbe a déjà blanchi. Que la personne sait qu'elle va mourir, elle n'a pas eu d'enfant et qu'un âge avancé, Allah lui accorde un enfant. Imaginez la joie que ce père ressent lorsqu'Allah lui accorde ce ni'ama. Et quelques temps après, Allah dit que ce bienfait-là, tu vas le couper pour moi. Imaginez qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce abid, de cet adorateur d'Allah. C'est vraiment un choix à faire. Soit mon cœur est attaché à ce qui est visible, c'est-à-dire les bienfaits de ce monde, ou alors je vais mon créateur. C'était là l'épreuve d'Ibrahim alayhi salam. Et c'est là l'épreuve de chaque mu'min. Et c'est là la leçon, le rouh, l'âme du Qurbani. Comprendre que moi, musulman, dans ma vie, je dois toujours faire passer l'ordre d'Allah avant mes propres choix. Je dois toujours faire passer l'ordre divin. Ce qu'Allah me demande, c'est plus important que ce que moi je conçois comme bien, comme bon. C'est pas que je me dis que je pense que si mes enfants ils vont vivre de telle façon, ce sera mieux pour eux parce qu'ils auront plus d'argent. Non. Si Allah a décidé qu'une éducation islamique, c'est le mode de vie qu'Allah veut pour moi, que ma femme se couvre correctement quand elle sort, que moi je sois fidèle à mes 5 prières, à tout acte d'adoration, que je m'éloigne du haram, de manière générale que j'arrive à contrôler mon nafs, à faire la part des choses entre la volonté d'Allah et le plaisir immédiat que je veux, moi tout de suite, si j'arrive à sortir vainqueur, c'est que j'ai compris. Quel était le sacrifice d'Ibrahim alayhi salam? Pareil mes chers frères, je peux donner des exemples dans chaque acte d'adoration. Quand j'accomplis la salat, quand je viens à la salat du Jum'a, Wallahu musta'an, combien de personnes viennent? Ils viennent à la fin lorsque le khutbah est presque terminé. Ils vont discuter en se déchaussant. Pendant le khutbah, ils vont parler. C'est-à-dire qu'ils vont venir, ils vont perdre, ils vont rien gagner. Wallahu musta'an, ils ont quitté leur maison, ils ont fait des sacrifices. Qu'est-ce qui fait qu'une personne vienne et ne gagne rien? C'est que je ne sais pas qu'est-ce que je recherche à travers ça. L'objectif, ce n'est pas juste de faire qiyam, ruku, sijda, etc. et enchaîner les rakat et faire doua. Non. C'est-à-dire qu'il y a le salat qui a été accompli en observant les règles. Qu'est-ce qui est wajib, qu'est-ce qui est mustahab, qu'est-ce qui est nafil, on ne fait pas ce qui est makruh dans le namaz. Les masa'il, ça, tout le monde le sait en général. Mais ensuite, pourquoi est-ce qu'Allah veut que chaque musulman fasse 5 namaz par jour jusqu'à la fin? Il y a quelque chose là-dedans. Vous croyez qu'Allah a besoin de mon sijda, de ma gymnastique spirituelle? Il y a quelque chose. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. C'est qu'il y a un rouh dans le namaz. Il y a une éducation. Il y a quelque chose de recherché. C'est que quand je fais ma salat, je contrôle mes paroles. Je dis que ce que je dois dire dans la salat. Quand je fais ma salat, je contrôle mon regard. Je contrôle mes gestes. Je contrôle ma pensée. Ça, c'est l'idée. Ça, c'est l'objectif du salat. C'est une tarbiya, éducation. Que quand je sors de la masjid, je ne vais pas dire n'importe quoi. Je ne vais pas faire n'importe quoi. Je ne vais pas regarder n'importe quoi. Et ma pensée sera avec Allah. Mes chers frères, ce sont des choses simples. Mais ce sont des choses essentielles. Ça, c'est l'âme des ibadas. À nous de développer ça. Quand on écoute le Coran, Allah Azza wa Jalla a révélé le Coran dans le but que chaque musulman le lise, le comprenne et le mette en pratique. Sahaba disent qu'ils ne dépassaient pas 10 versets sans comprendre et mettre en pratique. De nos jours, nous, qu'est-ce qu'on a compris du Coran? Nous voulons un Coran spectacle. On veut des enfants qui fassent hafez, qui deviennent des hafez du Coran, qui font des super taravis, qui vont remporter des concours de Coran. On veut de grands qaris qui viennent de l'Inde, de l'Égypte, quels que soient les endroits, qui vont lire d'une façon extraordinaire et que toute la masjid va s'exclamer Allahu Akbar en s'étonnant de la beauté du Coran. Oui, écouter le Coran, c'est un ibad. Le Prophète une fois avait un sahaba qui dit qu'il lisait le Coran et le Prophète a écouté jusqu'à ce qu'il dit qu'il y avait un verset. Dit que le jour qu'Aman le Prophète sera témoin pour toutes les communautés. Et là, le Prophète a dit au Sahaba, hasbouk, c'est suffisant, arrête de lire. Et le Sahaba, regardez le Prophète, il voyait des larmes couler des yeux Mubarak du Prophète. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire qu'écouter le Coran, c'est une ibada, il n'y a rien à dire là-dessus. Comme nous l'avons fait, c'est un ibada également. Mais ce n'est pas que ça, dites-moi, après le passage d'un grand qari, est-ce qu'il y a eu un effet sur les cœurs? Est-ce qu'il y a eu plus de gens à Salat al-Fajr le lendemain? Est-ce que les femmes dans la rue se sont couvertes de manière plus pudique? Ça, c'est juste un exemple, sans critiquer les actes d'adoration, pour qu'on comprenne qu'il y a le zahir des ibadah. Il y a l'aspect, ce qui est visuel, ce que nous pouvons palper, contempler, et puis il y a le ruh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui? On ne va pas apprendre le prophète, c'est quoi ce verset, il connaît. Mais pour lui, c'était un rappel. Il a écouté ce sahaba lire, et ça l'a rappelé que le jour de Qiyama, il y aura telle chose, et ça a touché son cœur. Parce que le Coran, c'est la parole d'Allah. Comment puis-je me rapprocher d'Allah sans passer par le biais de la parole d'Allah? Mes chers frères, qu'Allah nous donne en quelques instants la possibilité donc de comprendre les quelques paroles qu'on a pu dire, pour comprendre que il y a un travail à faire. Il ne faut pas se dire que je suis un bon musulman. Ce n'est pas parce que j'accomplis les actes d'adoration que je suis dans le droit chemin. Entre nous, vous savez bien que la salat al-Jum'a qu'on va accomplir, elle est incomparable avec la salat al-Jum'a qu'Abu Bakr al-Siddiq a fait il y a 1440 ans. Impossible, incomparable. Pourtant, c'était deux unités de khutbah, et deux unités de prière. C'était le même ibadah. Mais le ruh, l'âme, la puissance, le ta'alluq avec Allah, la relation avec Allah, c'était autre chose. Et c'est ça qu'on doit rechercher. Qu'est-ce que Allah attend de chaque musulman à travers chaque ibadah? Qu'Allah ouvre nos cœurs, donne possibilité d'offrir, de mettre mieux en pratique notre vie, et que cette nouvelle année qui va commencer, qu'Allah nous permette de prendre les meilleures résolutions et de nous rapprocher de lui.